Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous, déjà de voir les personnes que je connais un peu et de rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous et aussi avec les étudiants de Défi. Et comme Florent vient de dire, c'est une série sur ce thème de l'espérance. Donc la semaine dernière, Didier était ici pour discuter avec vous d'une facette de l'espérance et aujourd'hui je vais traiter une autre facette. Mais avant de regarder le texte, j'ai une question pour vous. Lorsque vous pensez à l'espérance, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Si je dis le mot espérance, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des personnes qui apprennent par les concepts, des personnes qui apprennent en voyant les mots, d'autres personnes qui apprennent d'une façon kinétique, oui, kinesthésique, oui, ce mot-là, en faisant, en touchant. Et peu importe votre manière d'apprendre, quand vous entendez ce mot de l'espérance, vous pensez à quoi? Quelles images ou quelles actions? Si on reste dans le thème de la ce mot-là, vous pensez à quoi? Le retour de Christ, oui, amen. Christ sur le trône de gloire, excellent. Quoi d'autre? Le grand festin. Ouais, tu es bien français, n'est-ce pas? Oui? Quelles autres images auxquelles est-ce que vous pensez? Là, c'est des images bibliques. Et donc, moi, j'ai pensé à d'autres exemples bibliques. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est beau, ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a d'autres images? Comment? L'espérance que Dieu, dans sa grâce, se révèle à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore aujourd'hui. On a prié pour les gens de Pontcharra ce matin. Dans la rue avec les étudiants. On a de l'espérance que Dieu, dans sa grâce, il se manifeste dans les vies des personnes qui ne le connaissent pas encore. Oui. Quoi d'autre? Le soleil après la pluie, oui. Comment? Un monde en paix, oui, la paix, oui, excellent. Moi, j'ai quelques exemples des choses auxquelles moi j'ai pensé. Peut-être la croix, à l'époque, c'était un moyen de torture, de tuer les personnes, mais pour nous, la croix de Christ est une image, un symbole de l'espérance, parce que lui, il est mort à notre place, à la croix, et il nous a donné la vie éternelle. C'est une image pour l'espérance. Et donc, il y a aussi, après le tombeau vide, il n'est plus sur la croix. Il n'est plus, il n'est pas resté à la croix, là, avec sa mort sacrificielle. Il a été ressuscité par le Père et le tombeau est vide. Et ça nous donne de l'espérance de savoir que non seulement il nous a justifiés à la croix, mais on va passer l'éternité, on va vivre une résurrection éternelle avec Dieu dans sa gloire. Il y a un autre, je sais pas, à Brignoux, ils ont dit l'arc-en-ciel, mais bon, il n'y a pas de compétition. L'arc-en-ciel, comment est-ce que je vois de l'espérance avec l'arc-en-ciel? Dieu a fait une promesse. Plus jamais il y aura une déluge sur cette planète. C'est une promesse sûre et solide parce que Dieu nous l'a dit. Donc on a l'espérance grâce à ce qu'il a dit. Il va faire ce qu'il a dit. Donc, on a dit tout à l'heure, on m'a dit à Brignoux, ils ont dit, mais ça, c'est la paix. Mais bon, c'est une espérance d'une paix. C'est toi qui l'as dit, n'est-ce pas? Oui, d'une paix éternelle. La paix qui règne pour l'éternité. Il y a aussi dans l'Apocalypse l'idée de nouvelle terre, des nouveaux cieux. Lorsque Christ reviendra, il va établir. Créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et puis, on a chanté à deux reprises, et Bon, c'est une image que le Seigneur m'a donnée et me redonne régulièrement. Et c'est une image qui est chère à mon cœur, à mon esprit. C'est cette idée de lumière. Que la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Et on a l'espérance que la lumière de Jésus-Christ va toujours avoir la victoire. Et la lumière perce les ténèbres. Et on voit la lumière, même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, on peut cerner, voir, apercevoir la lumière de Jésus-Christ. Alors, puisque je ne suis pas français, je me suis tourné vers le dictionnaire Larousse, qui m'a donné cette définition, le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Ça, c'est l'espérance, selon Larousse. Le Robert, il est plus succinct, mais il dit ceci. Le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Donc, si on fait un mélange de ces deux définitions, on peut dire que l'espérance est un sentiment positif qui regarde vers l'avenir avec la confiance d'atteindre ce que l'on désire. Regarder vers l'avenir avec confiance qu'on va atteindre ce que l'on désire. Question. En ce début de 2025, comment est-ce que tu jaugerais ton niveau d'espérance? Comment est-ce que tu évalues ton niveau d'espérance selon la définition de Larousse et du Robert? Si je suis honnête avec vous, si je regarde autour de moi, si je regarde les infos, et même en toute honnêteté, si je regarde moi-même, si je regarde quelque chose d'autre que Dieu lui-même, mon niveau d'espérance est quasi inexistant. Et c'est pour cette raison que Michael a eu la très bonne idée qu'en ce début d'année 2025, qu'on regarde ensemble l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et des messages qui nous aident à garder nos yeux fixés sur celui qui nous donne de l'espérance véritable. Et donc aujourd'hui, on va regarder l'idée de l'espérance de la présence parfaite de Dieu. Donc je discutais avec Michael tout à l'heure et il s'est rendu compte, enfin, en tout cas moi je me suis rendu compte que la mission n'était pas très facile. La mission qu'il a donnée à Didier, à lui-même, à moi-même et une quatrième personne que j'ignore. À Didier deux fois, oui voilà. Donc Didier il en bave, mais merci Michael. Et donc aujourd'hui, on va regarder un des textes qu'il m'a proposé, mais on va se concentrer sur un seul texte qui, dans la deuxième partie, vise justement cette idée de l'espérance de la présence parfaite de Dieu. Mais, Michael le sait, j'ai pas toujours une facilité à prêcher d'une façon thématique. Et donc, on va regarder un seul texte et on va décortiquer ce texte-là qui parle de l'espérance de la présence parfaite de Dieu. Tout le monde est toujours avec moi. Donc, un seul texte qui a un contenu assez dense, mais je ne vais pas prendre plus que 22 minutes pour décortiquer ce texte ensemble avec vous. Mais avant de regarder le texte, je vous donne le contexte du livre. Donc, c'est 1 Corinthiens. Et là, on sait que Paul, il a fondé l'église à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et on peut voir dans notre lecture, avec des éléments qu'on trouve dans la lettre, qu'une des raisons que Paul a écrit cette lettre, c'est parce qu'il a reçu un rapport de la part des personnes qui ont rendu visite à l'église, qui disait à Paul, ça va pas très bien. Très bien, là-bas, ils sont en train de se disputer, il y a des querelles tout le temps entre les membres de l'Église. Et donc aussi, on peut en déduire de notre lecture du livre que Paul, il avait lui-même reçu une lettre de la part des Corinthiens qui posait des questions en ce qui concerne les dons spirituels, le mariage et les collectes. Qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent? Et donc, ça, c'est le contexte de ces quelques versets qu'on va regarder maintenant ensemble, qui sont en quelque sorte l'introduction du livre de 1 Corinthiens. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude à ce que quelqu'un dans l'auditoire lit le texte? Est-ce que quelqu'un aimerait lire ce texte pour nous avec une voix qui porte? Sinon, je peux le faire, mais c'est pourquoi pas. Enfin, n'ayez pas peur. On est entre frères et sœurs ici. Merci, Rebecca. Oui.
Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi par vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Donc, avec beaucoup de tact, Paul, il commence sa lettre en rappelant aux Corinthiens les merveilleuses bénédictions qu'ils ont reçues en Jésus-Christ. Et il les rappelle, c'est l'objectif, un des objectifs dans la vie chrétienne, c'est de vivre dans l'espérance du retour de Christ et aussi de l'espérance de la communion avec lui, mais aussi en lui. Et donc, Paul, il les a encouragés à aspirer au-delà de tout ce qu'ils vivaient actuellement, parce qu'ils ne marchaient pas d'une manière digne de leur appel en Jésus-Christ. Donc, on a quelques indices dans cette introduction de ces idées-là. Et donc, là, on va décortiquer verset par verset selon une structure, moi je l'appelle une structure théocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les quatre points qu'on va regarder ont affaire avec Dieu et ces idées se trouvent dans ces quatre versets. Donc on va regarder verset 4, la grâce de Dieu, verset 5, les dons de Dieu, verset 6, le témoignage pour Dieu, et puis à la fin, les trois derniers versets, l'espérance en Dieu. Donc, première idée, la grâce de Dieu. Donc, après les trois premiers versets, les salutations habituelles, Paul écrit sa reconnaissance pour ses chrétiens à Corinthe. Et donc, dans sa reconnaissance, il souligne quelque chose de primordial pour leur vie de foi. Ça veut dire qu'il souligne la grâce que Dieu leur a faite dans la mesure où ils ont connu le salut en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? Pas de mauvaise réponse, il y a juste certaines réponses qui sont meilleures que d'autres. Donc, c'est ce que je dis toujours aux étudiants. C'est quoi la grâce?
Un don immérité.
Voilà. C'est recevoir ce que l'on ne mérite pas. Donc, la grâce veut dire que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Qu'est-ce que nous ne méritons pas? Nous ne méritons pas, en tant qu'hommes et femmes imparfaits, nous ne méritons pas de passer l'éternité dans la présence d'un Dieu trois fois saint, d'un Dieu parfait. Nous ne méritons pas parce que la sainteté ne peut pas être mélangée avec l'imperfection, avec le péché. Mais nous recevons la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui a pris tout sur lui-même, qui nous sépare d'un Dieu créateur trois fois saint, d'un Dieu parfait. Il a pris notre péché, tout ce que nous avons fait de mauvais, tout ce que nous faisons de mauvais, tout ce que nous ferons de mauvais, il a pris sur lui-même à la croix, il a pris notre place et il nous a donné sa justice. Nous avons reçu la justice de Jésus-Christ, quelque chose qu'on ne mérite pas. Et lui, il a pris notre péché sur lui-même. Et Paul, il dit dans le verset 4, les Corinthiens, vous avez reçu le salut en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. J'ai envie de dire, si nous sommes ici ce matin, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, que par la foi nous avons accepté que Jésus-Christ a tout fait à la croix, que nous ne pouvions jamais faire nous-mêmes, nous pouvons se réjouir de la grâce de Dieu dans notre vie. Deuxième idée, verset 5. Paul, il fait référence au don spirituel qui va être un des thèmes principaux dans cette lettre plus tard. Donc, du chapitre 12 au 14, Paul, il parle des dons spirituels que les chrétiens à Corinthe avaient reçus à l'époque. Surtout, leurs dons, c'était, selon eux, les dons les plus importants. Les dons de la parole, les dons de la révélation, les dons de la connaissance. Mais apparemment, même avec tous leurs dons de connaissance, tous leurs dons de révélation, tous leurs dons de parole, Paul leur dit, il vous manque la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? 1 Corinthiens 13, l'amour. Même avec tous vos dons, vous manquez encore la chose la plus importante, c'est l'amour de Dieu. Et il leur dit, mais hey, les gars, vous êtes en train de vous disputer à cause des dons, à cause de la personne que vous trouvez le meilleur prédicateur, le meilleur leader. Et il leur a dit, mais vous avez reçu les dons. Non pour que vous en profitez vous-même individuellement, mais vous avez reçu les dons pour être mise à disposition de tous les autres dans l'Église et dans le monde. Les dons spirituels ne peuvent jamais, jamais remplacer l'amour de Dieu manifesté dans nos relations. Nous avons tous reçu des dons. C'est une très bonne chose. Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'exercer nos dons au profit de tous les autres dans ce monde et dans cette Église. Mais on ne peut jamais remplacer nos dons, notre service, la mise en application de nos dons avec l'amour de Dieu que nous pouvons manifester les uns pour les autres. Verset 6. Paul, il fait référence à l'œuvre qu'il a annoncé lorsqu'il était avec les Corinthiens lors de son deuxième voyage missionnaire, à savoir ce que Christ a fait en eux lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et à ce moment-là, ils ont reçu, basé sur verset 5, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Au moment de la conversion, au moment où ils ont accepté ce que Jésus a fait à la croix pour eux, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Verset 5, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Des dons spirituels, des dons de l'Esprit. Et c'est quoi le but de ces dons, comme on vient de dire au verset 5? C'est là pour servir les autres. Les dons sont là pour être mis à disposition des autres dans le monde et dans l'Église. Et ces dons sont, nous aident justement à témoigner de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et on donne ce qu'on a reçu. On reçoit des dons, on les met en application pour les autres au sein de l'Église, et c'est un témoignage. Quand les gens voient nos dons, ma prière, c'est qu'ils ne voient pas nos dons, mais ils voient Jésus en nous, à travers le Saint-Esprit dans notre vie, qui est en train de témoigner. Enfin, ils disent, « That's Jesus, ça c'est Jésus !» Et Paul leur dit, les dons que nous avons reçus, c'est pour donner la gloire à Dieu, pour témoigner de qui il est dans notre vie. Et donc, leur témoignage provient de l'action de l'Esprit dans leur vie. Et ce témoignage est censé refléter l'exemple sacrificiel de Jésus. On donne. Est-ce que vous êtes arrivé à un moment et dans ton service à l'église ou dans un ministère quelconque et dire « I'm done, j'ai plus rien ». Ça arrive parfois, mais on n'a jamais terminé à donner parce que ça ne vient pas de nous. Si on est arrivé au point où on dit « j'ai plus rien à donner », ça veut dire qu'on comptait sur notre propre force, notre propre façon à mettre les dons en place dans l'Église et dans le monde. Mais si on dépend de lui, c'est une source inépuisable. Alors, jusque-là, nous avons vu 3 versets. Est-ce qu'on peut restituer ce qu'on a vu jusque-là? Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, verset 4, tout commence avec la de Dieu. La quoi? La grâce de Dieu. Est-ce que j'ai changé? Oui, voilà. La grâce de Dieu. On est sauvé. Si on est là ce matin et on est sûr de notre salut éternel, c'est par la grâce de Dieu. Deuxièmement, verset 5, au moment de notre conversion, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Nous recevons les dons spirituels. Et c'est quoi le but de ces dons spirituels? Mise en application, mise en pratique pour les autres dans l'Église, mais aussi dans le monde. Et c'est la mise en application de ces dons spirituels, qu'est-ce que c'est? Verset 6. C'est un témoignage de qui est Jésus, qui est Dieu dans notre vie. Ces dons sont un moyen pour nous de vivre un témoignage sacrificiel à l'image de Jésus-Christ. Alors, maintenant, on arrive au quatrième point, qui parle de notre thème pour cette série. Donc, je vais vous lire d'abord le verset 7 et 8. « Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, Paul, il laisse entendre que puisque le salut est l'œuvre de Dieu, Paul, il n'a aucun doute du résultat ultime dans la vie du croyant. Je redis, le salut, c'est l'œuvre de Dieu, et puisque ça dépend de Dieu, Paul, il n'a aucun doute à propos du résultat ultime du salut dans la vie du croyant. Il dit clairement que c'est Jésus qui nous donnera ce dont nous avons besoin. Il dit on ne manquera aucun don. Jésus, c'est lui qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour être auprès de lui. Et donc, selon Larousse, nous pouvons attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Ça veut dire passer l'éternité dans la présence de notre Créateur. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Autrement dit, nous pouvons avoir de l'espérance de voir Jésus apparaître et de passer l'éternité dans la présence de notre Dieu, parce que c'est Jésus lui-même qui l'accomplira en nous. Verset 8. On voit que nous pouvons avoir de l'espérance. Comment est-ce que Paul il a dit? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Verset 8. il dit que Jésus nous affermira jusqu'à la fin. Donc là, selon notre traduction, l'idée est un peu différente que ce qu'on peut le penser. Quand j'ai lu la première fois, je dis jusqu'à la fin de ma vie. Mais ce n'est pas ça qui est voulu. L'idée est une idée différente de la part de Paul, parce que le mot qu'il utilise pour fin, jusqu'à la fin, c'est le mot telos. Et le mot telos en grec, ça veut dire l'accomplissement, l'achèvement ou atteindre la perfection. Donc ce n'est pas lui qui va affirmer jusqu'à la fin de ma vie, mais il va vérifier que j'arrive à la fin, où j'arrive d'une façon accomplie, dans un état de perfection. Mais c'est lui qui fait en moi. Donc le but voulu de Dieu, c'est que nous soyons accomplis, que nous soyons parfaits. Malgré nos fautes, malgré notre péché, Jésus continue à œuvrer en nous dans le présent, afin que nous soyons, selon Paul, irréprochables quand Jésus reviendra. Et non. Et donc, nous pouvons avoir de l'espérance, parce que ça dépend de lui et pas de nous. Ce n'est pas nous qui devons nous efforcer par notre propre performance à maintenir une vie sainte. Parce que dès qu'on commence à dépendre de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ben, on tombe dans le panneau. Mais si nous dépendons de lui, c'est possible et c'est accessible. Et c'est lui qui va nous affermir à la fin. Nous devons dépendre davantage de l'œuvre parfaite que Christ a accomplie pour nous à la croix. Et parce que le croyant a été justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, on peut, selon Robert, entrevoir la réalisation d'être irréprochable devant Dieu quand Christ reviendra. Irréprochable devant Dieu quand Christ apparaîtra. Irréprochable, en grec, ça veut dire sans tache, sans reproche. Mais bon, ça n'aide pas trop parce que irréprochable, sans reproche, mais sans tache. Et moi, j'ai beaucoup d'images en tête quand je pense aux tâches. Qui ici a des gros problèmes comme moi à viser bien sa bouche lorsqu'il mange et il y a toujours des dégâts qui tombent sur la chemise avant que la nourriture arrive dans sa bouche? Oui, vous n'êtes pas obligé d'être honnête, mais on est à l'église, mais quand même. Je dois vous avouer, c'est un truc qui me dérange profondément. Avoir une tache sur ma chemise, je deviens obsédé au point où je veux enlever à tout prix ma chemise tachée. Bonne nouvelle pour les personnes qui sont comme moi. On ne va pas apparaître avec des habits sales lorsque Jésus-Christ reviendra. Nous allons apparaître avec des habits purs, parfaits, blancs, saints. Et c'est Jésus qui fera en sorte que nous pouvons apparaître devant le trône de grâce. Parce que c'est lui qui nous rend irréprochables. Et donc, nous avons cette espérance de pouvoir passer l'éternité dans la présence de notre Créateur, d'un Dieu trois fois saint, parce que Jésus nous rend irréprochables avec des vêtements sans tache. Il y a une petite idée corollaire qu'on trouve au verset 9, qui est le dernier verset de notre texte. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le verset 9, c'est la mise en pratique de cette réalité que chaque croyant sera affermi jusqu'à la fin et apparaîtra irréprochable lorsque Jésus sera révélé. Donc, c'est la mise en pratique. Et donc, Paul, il dit que puisque Dieu est fidèle, c'est Dieu qui nous appellera à la communion de son Fils qui nous a réconciliés à Dieu le Père. Alors, juste une idée entre parenthèses pour terminer. Le mot communion en grec, c'est koinonia, qui veut dire s'unir ou se réunir. Et en écrivant cela, Paul montre que Dieu a l'intention que non seulement les croyants soient unis à lui, mais qu'ils s'unissent entre eux pour la cause de Christ. Il faut avoir l'arrière-plan, le contexte du livre d'un Corinthien. Ils étaient en train de se disputer, il y avait des visions, des dissensions. C'était du gros n'importe quoi dans l'Église. Et en rajoutant cette idée au verset 9, Paul il veut montrer aux Corinthiens qu'on ne peut pas vivre en communion avec le Christ tout en étant en désaccord avec d'autres membres du corps de Christ. Parfois, quand je pense à la réalité qui m'attend, à l'éternité avec mon Seigneur, avec mon Sauveur, parfois, pour ne pas dire souvent, je me vois en tête à tête avec Jésus. Et pour les introvertis, ils disent « Ah, mais c'est normal !» J'ai mon temps avec le Seigneur, c'est le moment le plus important. Et l'éternité, ça va être moi et Jésus ensemble pour l'éternité. Je suis vraiment désolé de dire aux introvertis, mais non, on ne sera pas tout seul avec le Seigneur en tête à tête pour l'éternité. Les autres vont y être aussi. En Christ, nous pouvons connaître l'unité dans l'Église. De par nous-mêmes, c'est impossible. Mais en Christ, l'unité dans l'Église est possible. Et Paul leur a bien dit que Dieu vous a appelés à la communion avec Jésus. Vous. En français, c'est facile. En anglais, you, enfin, ça passe partout. Mais il n'a pas dit, il t'a appelé, toi, pour être en communion avec Jésus-Christ. Il a dit, il vous a appelé à être en communion avec lui. Ça veut dire avec lui individuellement, mais avec lui d'une façon communautaire. On est appelé à pratiquer l'unité avec les autres maintenant pour que ce soit en corps meilleur dans l'éternité, quand on sera tous ensemble. Alors, pour résumer ces six versets, verset 4, ça parlait de quoi? La grâce de Dieu, le salut, le fait que nous puissions être en relation avec Dieu par Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Après, après s'être converti, il y a quelque chose qui se passe en nous. Verset 5, on reçoit des dons spirituels qui sont là pour quoi? Pour être au service des autres, mais qui est aussi un moyen de témoigner de Jésus-Christ dans notre vie. Et puis, à la fin, verset 7, 8, et 9, aussi, ces dons sont aussi censés être un témoignage à l'exemple de Jésus-Christ, un témoignage sacrificiel. Et donc, nous pouvons avoir une espérance remplie de la lumière de Jésus-Christ à ce que lui y fera en sorte qu'on apparaîtra irréprochable devant le trône de grâce de Dieu et de pouvoir passer l'éternité dans sa présence, mais aussi dans la présence de ceux et celles qui ont la même espérance. On sera avec lui, tous ensemble, pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci pour ces quelques versets. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour la richesse de ta personne. Seigneur, ma prière pour nous tous aujourd'hui, c'est que nous puissions vivre, pas juste une façon intellectuelle, avoir compris le texte, mais vivre les implications de ce qu'on vient d'entendre ce matin. Et moi, en premier, Seigneur, que nos vies puissent te refléter, que les dons que tu nous as donnés, qu'on les mette au service de l'Église pour les personnes dans ce monde et dans cette Église. Et que ce soit un témoignage, que ce soit toi qui reçois toute la gloire. Et Seigneur, que on fait pas ça de contre-cœur, mais on le fait de tout cœur, parce que nous avons une espérance. D'après ces versets que nous allons... Toi, tu vas nous rendre irréprochables. Et nous allons pouvoir passer l'éternité dans ta présence parfaite. Et ce, avec ceux et celles qui ont cette même espérance. Seigneur, que tu nous encourages de vivre les réalités de ces versets aujourd'hui, cette semaine, ce mois, ici dans cette assemblée, que les saints de Pontcharra puissent vivre la mise en application de ces versets, afin que tu sois glorifié dans leur vie individuellement, mais aussi dans la communauté de cette assemblée ici à Pontcharra, et que les charapontins puissent voir les reflets de ce témoignage qu'ils font pour toi, afin qu'eux aussi puissent te connaître dans leur vie. Au nom précieux de Jésus, amen.